On va discuter aujourd'hui de ce qu'on appelle la notion de ligne d'influence. Peut-être que ça vous dit déjà quelque chose. Vous avez déjà entendu parler de ligne d'influence? Non, jamais. Ou de surface d'influence non plus? A fortiori, ok. Pour faire ça, on va revenir d'abord sur les derniers théorèmes qu'on n'a pas vus ensemble, qui sont les théorèmes de réciprocité. Je crois que j'ai rien écrit dans les notes de cours concernant les théorèmes de réciprocité, donc vous verrez que c'est une partie du syllabus qui est encore vide. Mais par contre, je crois que c'est assez bien détaillé dans les dias. Il y a surtout un théorème, ou en réalité deux théorèmes, théorème de Betti, théorème de Maxwell, qui sont vraiment très très proches, et qui sont les théorèmes qu'on va utiliser. Okay, donc je vais d'abord expliquer ces théorèmes, et puis quand on aura bien compris comment ça fonctionne, vous allez voir qu'on va en avoir besoin pour déterminer ce qu'on appelle la notion de ligne d'influence. Okay. Alors, le théorème, il se présente sous cette forme-là, théorème de réciprocité. J'ai refait la liste à cette époque-là, c'était même des mathématiciens qui avaient travaillé sur la problématique. Aujourd'hui, on dirait des ingénieurs de structure qui ont travaillé sur la problématique des théorèmes de réciprocité. Vous voyez, Lord Rayleigh, Castigliano, Betti, Maxwell eux-mêmes, Helmholtz, j'en ai oublié d'autres. Il y a probablement Engesser, que vous connaissez aussi, et qui datent tous de la fin des années 1800. Ça vous permet plus ou moins de situer sur l'axe du temps où se trouve la théorie que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, le théorème de réciprocité des travaux, c'est le théorème de Betti, soit le premier théorème qui a été posé, est clairement formalisé. Voilà ce qu'il dit. Il dit que dans une structure élastique, le travail développé par une sollicitation P1 dans le champ de déplacement causé par un autre état de sollicitation P2 est égal au travail développé par l'état de sollicitation P1 dans le champ de déplacement de P2. Ok, ici. Sous une forme scalaire, il s'écrit P1 delta 1, 2 égale P2 delta 1, delta 2, 1. Donc, exemple, si je prends une structure comme ceci, il est évident et important que la structure doit être la même. Bien, si je regarde le déplacement vertical ici, je vais essayer de le tracer comme ceci. Je donne un sketch. Et de l'autre côté, on va peut-être avoir quelque chose qui fait ceci. Donc, ça, c'est une sollicitation P1. Là, je vais avoir une sollicitation P2. L'exemple est un peu simple ici. Je vais regarder le déplacement vertical du point 1 sous l'effet de la charge 1. Je vais regarder ici le déplacement horizontal, dans ce cas-là, il vaut 0. Delta dans la structure 1 au point 2. Ici, je vais regarder le déplacement vertical de ce point-là, en fait, qui se trouve être ici, mais son déplacement vertical, je vais le noter delta 1, 2, et je vais noter ce déplacement-là delta 2, 2. Alors, ce que le théorème de Betti nous dit, c'est que si je multiplie le déplacement vertical dans une structure sous l'effet de P2, si je multiplie ce déplacement-là par la charge P1, en l'occurrence ici c'est 0 fois P1, je vais récupérer le même résultat que si je multiplie le déplacement associé à P2, mais le déplacement calculé sous l'effet de P1. Okay, le déplacement horizontal ici associé à P2, il vaut 0, 0 fois P2 c'est 0. Okay, dans ce cas-là, on a un 0 égale 0. Okay, je vous donne un autre exemple. On va un exemple beaucoup plus simple. P1 comme ceci. P2 comme ceci. Si je regarde le déplacement de la poutre sous l'effet de P1, va être comme ceci. Sous l'effet de P2, comme ceci. Ce déplacement-là est égal à delta 2, 1. Je le compte dans la direction et positif, dans le même sens que P2. Et le déplacement ici est égal à delta 1, 2. Alors, qu'est-ce que le théorème de Betti nous dit? Il nous dit que le déplacement vertical de ce point-là, sous l'effet de P1, okay, donc ce déplacement vertical, si je le multiplie par P2, eh bien, en réalité, j'ai le même résultat que si je multiplie ce déplacement vertical qui est obtenu sous l'effet de P2, donc ce déplacement-là, si je le multiplie par l'intensité de P1. Ok, c'est complètement fou. On va comprendre tout de suite pourquoi, à quoi ça sert. Ça justifie énormément, énormément de choses. Vous avez commencé probablement à travailler sur la méthode des éléments finis. Vous avez commencé la méthode des résidus, peut-être. À cette époque-ci, l'année, ça va arriver. On va vous expliquer à un moment donné que la matrice de Rédor, que vous avez dans la méthode des éléments finis, elle est symétrique. Pareil pour une matrice de masse, pareil pour une matrice de viscosité, on en parlera au deuxième quatrième. Mais la vraie raison, c'est le théorème de Betti. Ok, donc je relis son énoncé parce qu'il est important. Dans une structure élastique, le travail développé par une sollicitation P1, donc c'est-à-dire que si je parle de travail, c'est-à-dire que je m'apprête à multiplier la force par un déplacement, d'accord ? Le travail développé par une sollicitation P1 dans le champ de déplacement causé par un autre état. Donc c'est-à-dire que voilà le champ de déplacement causé par l'autre état, par l'état P2, et je calcule le travail de P1 dans ce champ-là. Donc c'est-à-dire que je fais P1 multiplié par le déplacement delta 1, 2. Eh bien ce travail est le même que le travail développé par l'état de sollicitation l'état de sollicitation P2 dans le champ de déplacement de P1. Donc c'est le même que le travail de P2 dans le champ de déplacement de P1. Ok ? Ça c'est l'énoncé du théorème. Je vais vous le démontrer. D'ailleurs que la démonstration elle est excessivement simple, elle est rapide. Peut-être qu'elle vous saute aux yeux. Peut-être que ce sont des choses dont vous avez déjà entendu parler dans le cadre du cours d'élasticité des structures ou mécanique du solide déformable. Ok, mais voilà la démonstration, comment ça marche. Ça parle du théorème des déplacements virtuels. Alors souvenez-vous, le théorème des déplacements virtuels, c'est un théorème qu'on a vu à la toute première séance de cours. Et ce théorème-là, il disait grosso modo que delta W est égal à delta mu. Donc le travail virtuel des forces extérieures est égal au travail virtuel des efforts intérieurs. Et donc ça nous disait quoi ? Ça nous disait que pour une structure dans une configuration en équilibre, comme cette poutre en configuration d'équilibre, elle nous disait tout simplement que si on décidait de choisir autour de cette configuration d'équilibre une petite configuration delta, d'accord, qu'on avait appelé delta V de S, avec S, l'abscisse curviligne mesurée à partir de l'extrémité gauche, par exemple ici. Mais si on choisit une petite perturbation qui était ce qu'on appelle un champ virtuel, d'accord, donc d'amplitude infinitésimale et qui est cinématiquement admissible, donc c'est-à-dire qui satisfait les conditions limites, mais qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'en réalité, delta W est égal à delta U. Delta W étant le travail des charges extérieures dans ce champ virtuel. D'accord ? Donc je prends toutes les charges qui sont impliquées sur la structure et je les multiplie par la valeur du déplacement correspondant. Okay, donc je fais P1 multiplié par ce petit déplacement-là. Ça va me donner le travail des forces extérieures. Bon, dans ce cas-ci, je n'ai que des forces appliquées, mais ça fonctionne aussi si j'ai des forces distribuées. Et ça marche aussi si j'ai des moments qui sont des moments concentrés appliqués. Ok ? J'ai pas pris d'exemple avec des moments pour le moment, mais vous verrez que ce sera l'exemple suivant. Ça, c'est le travail des forces extérieures. Et donc, le principe des travaux virtuels, le théorème des déplacements virtuels nous dit, c'est qu'il est égal au travail des forces intérieures. Et au niveau du travail des forces intérieures, on peut se focaliser essentiellement pour le premier si on a une poutre en flexion. Vous voyez que EI fois la courbure, c'est le moment. EI fois qui, c'est le moment. Et donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prendre le vrai moment dans la structure. Et je dois multiplier par delta qui, donc c'est-à-dire je dois multiplier le vrai moment dans la structure, je dois multiplier par la courbure delta qui correspond au champ virtuel que j'ai choisi. Donc le delta qui est là-bas, dans l'exemple que j'ai représenté, bien c'est rien d'autre que la dérivée seconde de delta V. Ok ? Et d'où est-ce que ça vient ? Vous souvenez, si je remonte un petit peu en amont, je vais pas refaire mon premier cours. Mais ça vient du fait que quand on a une structure qui est en équilibre, donc son potentiel, généralement, on va la trouver sur un minimum de son potentiel. Et ce qu'on est simplement en train de dire, c'est que si on perturbe cette configuration d'équilibre dans une direction, quelle que soit la direction qu'on choisit, l'énergie potentielle totale, qui en réalité est égale à delta W moins delta U, ne change pas. Donc le delta H est égal à 0. Okay ? Si vous avez lu un petit peu les notes de cours, vous vous rendez compte que c'est évident. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer ce théorème des déplacements virtuels et on va l'appliquer dans les deux cas. On a une première structure soumise à un premier chargement avec sa configuration déformée et on a une deuxième structure avec son chargement et sa configuration déformée. Alors qu'est-ce que je vais choisir ? Dans le principe des travaux virtuels, on a le droit de choisir le delta V exactement comme on veut, pour autant qu'il satisfasse ses conditions et qu'il soit cinématiquement admissible. D'accord ? Donc ça veut dire que il faut juste que le delta V qu'on voit là-bas soit une fonction continue et qu'elle satisfasse les conditions limites. Et bien moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais choisir pour delta V une fonction qui est affine à cette déformée-là. Donc, je vais faire comme si le delta V que j'utilise pour perturber la configuration d'équilibre 1, je vais lui prendre exactement la même forme que la configuration d'équilibre 2. Ok, c'est mon propre choix, puisque je peux choisir celui que je veux. Ok, donc si je calcule, le travail intérieur et le travail extérieur sur base de ce choix-là, on voit donc que dans la formulation qui, la courbure, la vraie courbure donc, qui est ici, c'est la courbure sous l'effet de la charge P1. Par contre, le delta qui correspond à la courbure additionnelle que j'ai choisie, et c'est la courbure qui correspond à la courbure qu'on a sous l'effet de P2. D'accord ? Donc je vais les noter qui, je vais noter qui 1, et delta qui, je vais le noter qui 2. Et je vais faire pareil pour toutes les quantités. Pareil pour le delta V, qui va correspondre en réalité à V2 au déplacement transversal sous l'effet de P2. Ok, donc quand on va écrire que delta U2, quand on va le calculer, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Delta U2, ce sera simplement l'intégrale, cette intégrale-là, où j'ai remplacé le qui par qui 1, et l'autre, delta qui, je l'ai remplacé par qui 2. Alors, le travail des forces extérieures, maintenant, le travail des forces extérieures, c'est quoi ? Puisqu'on est en train d'écrire l'équilibre de cette structure-là, le travail des forces extérieures sera simplement P1, où l'ensemble de toutes les charges appliquées dans la configuration 1, que je vais appeler F1, M1, etc., etc., et je vais simplement les multiplier par le champ de déformation que j'ai choisi, qui est le champ de déformation virtuel, donc c'est-à-dire le déplacement sous l'effet de la charge 2 au point I, la rotation sous l'effet de la charge 2 au point I, etc. etc. D'accord ? Donc, j'ai appliqué une première fois le principe des travaux virtuels, et je vais faire exactement la même chose maintenant, mais je vais écrire le principe des travaux virtuels pour écrire l'équilibre de la structure sous l'effet de la charge P2. Et là, qu'est-ce que je vais choisir comme, comme champ virtuel ? Évidemment, je vous le donne en 1000, et je vais choisir un delta V qui est affin à la vraie déformée ici sous l'effet de P1. D'accord ? Donc je symétrise en réalité le développement. Et si je fais ça, ben donc le qui, donc c'est-à-dire la vraie courbure sous l'effet de P2, ben ça devient qui 2 dans ce cas-là. Et le delta qui, la courbure virtuelle que j'ajoute en conséquence du choix du champ virtuel, eh bien en fait, c'est rien d'autre que qui 1. Donc, delta U1, le travail des forces intérieures, ben ça va être quoi ? Ben ça va être l'intégrale de qui 2 fois qui 1. Et puisque le produit est commutatif, l'intégrale de qui 2 fois qui 1, ben vous voyez qu'en fait, c'est rien d'autre que la quantité qu'on avait là-bas. C'est exactement la même chose. Donc le travail, en fait, j'ai choisi ces champs de déplacement virtuels, je les ai choisis de manière à ce que delta U que j'ai calculé la première fois soit exactement égal à delta U que j'ai calculé la deuxième fois. Okay ? Et on va exploiter le fait que les deux delta U sont les mêmes pour dire que du coup, les deux delta W doivent être les mêmes. Okay ? Le delta W dans le deuxième cas, c'est quoi ? Ben, c'est le travail des forces extérieures. Donc, ce sont les forces qui sont réellement appliquées sur la structure dans le deuxième cas de charge, multipliées par le déplacement virtuel que j'ai choisi. Et le déplacement virtuel que j'ai choisi, ben, c'est la déformée sous l'effet de la première charge. Okay ? Donc, en fait, si je dis que delta U1 est égal à delta U2 par commutativité du produit, et parce que j'ai choisi mes champs de déplacement virtuel de manière à faire apparaître ça, par conséquent, les delta W doivent être identiques. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, effectivement, on voit que le travail des forces dans la configuration 1, mais sous l'effet des déplacements correspondant à la configuration 2, sont les mêmes que les travaux des forces qui sont impliqués dans la configuration 2, multipliés par les déplacements qui sont observés dans la configuration 1. Ok ? C'est un peu compliqué. C'est fou, hein ? On n'aurait jamais imaginé ça quand on voit une structure. Si je pense qu'au début, si vous avez demandé à votre avis, qu'est-ce qui se passe si je fais le produit de P1 fois le déplacement ici et P2 fois le déplacement là-bas, je suis quasiment certain que personne ne m'aurait dit d'emblée, ah ben en fait, ce sont les mêmes. Okay ? Ben en fait, c'est comme ça, ce sont les mêmes. Alors voilà, donc évidemment, je n'ai pas, j'ai pas insisté dessus, mais quand on calcule un travail, c'est une force fois un déplacement ou bien un moment fois une rotation. On est bien d'accord, on a la même unité, force fois déplacement, newton fois mètre, ça fait des joules, moment fois rotation, newton mètre fois des radians, ben donc ça fait des newton mètres, des joules. D'accord ? On a bien une énergie aussi. Pas de questions jusque-là ? Ok, un petit exemple, juste pour vous convaincre davantage, si ce n'était pas encore le cas. Ben, qu'est-ce que je fais ? Je reprends l'autre exemple, c'est une poutre sur deux appuis ici, c'est une poutre simple. Tout ce que je dis, évidemment, est valable en isostatique, est valable en hyperstatique, hein. On n'a pas fait d'hypothèse sur le degré d'hyperstaticité de la structure. Donc, si je calcule sous l'effet d'une charge transversale P à mi-longueur, le déplacement delta 1,1 et la rotation phi 2,1 ici, mais si je calcule la même chose sous l'effet d'un moment appliqué à l'extrémité, donc le déplacement vertical delta 1, 2 ici et la rotation phi 2, 2 là-bas. Et qu'est-ce que le théorème de Betty Maxwell nous dit ? Il nous dit que si je fais P fois delta 1, 2, j'obtiens le même résultat que si je fais le moment N fois la rotation, phi de 1. Ok ? Alors si vous retournez dans la formule que vous connaissez bien de vos cours d'isostatique, vous allez vous rendre compte que sous l'effet d'une charge imposée à mi-travée dans une poutre isostatique, le déplacement à mi-travée, il vaut PL cube sur 48 EI. Anas vous en a reparlé il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux, je me souviens qu'il a marqué la formule au tableau. D'accord ? Donc vous la connaissez peut-être. Je l'ai simplement reprise ici de vos formulaires. Et on peut calculer aussi la rotation à l'extrémité, PL carré sur 16 EI. Dans ce cas-là, de delta 1, 2, il vaut ML carré sur 16 EI. Et le phi de 2, il vaut ML sur 3 EI. Et en fait, si on calcule P fois delta 1, 2, c'est ce que je disais, donc P fois le déplacement ici, ben on obtient... il faut multiplier ceci par P. Donc ça fait P ML carré sur 16 EI. Et vous voyez que c'est exactement la même chose que si je multiplie la rotation là-bas, si je la multiplie par N. Ok ? Démonstration par exemple, ou en tout cas, c'est pas une démonstration, c'est simplement un exemple pour illustrer la généralité du théorème de Bettini. Ouais.
Le déplacement delta 1, 2, il se trouve à la même abscisse que là.
Obligatoirement. Oui, bien sûr, bien sûr. Puisqu'on calcule le travail de la force, donc c'est la force multipliée par le déplacement du point d'application de la force. Donc c'est exactement au même endroit. Ok, je ne l'ai pas mis ici. J'étais un peu approximatif quand j'ai dessiné, hein, mais on est bien d'accord que l'abscisse du P1 est la même que l'abscisse à l'endroit où j'ai calculé delta 1, 2. Pareil là où j'ai indiqué delta 2, 1, c'est la même abscisse que P2. Ok. Alors un petit peu plus tard, Maxwell a été smart et il s'est dit, ok, si c'est valable quels que soient les P et quels que soient les N, c'est valable aussi quand P vaut 1 et quand N vaut 0. Ou quand P vaut 0 et quand N vaut 1. Et donc, en fait, il a publié un cas particulier du théorème de Betti, qui en fait est un cas particulier qui est probablement bien plus connu que le théorème général de départ. Et donc, le théorème, il dit quoi ? Il dit simplement un cas particulier de ce qu'on vient de voir avant. Et la seule différence, c'est que on met P1 égale à 1 et P2 égale à 1. OK ? Et on arrive au théorème de Maxwell. On parle souvent du théorème de Betti-Maxwell pour rendre un petit peu de crédit à Betti.
Ouais. Et du coup, tout ça, ça marche quand on a deux formes.
Exact, ça marche que quand on n'a que deux forces, ouais. Alors, a priori, tu as raison, c'est un peu limitatif, mais on s'en fout, parce qu'en fait, tant qu'on reste en élastique linéaire, on a le principe de superposition qui est valable. Et donc, si on a compris comment ça marche pour deux forces, et bien, en fait, après, on aura compris comment ça marche quand on les additionne, ou quand on les combine. D'accord ? Donc, vous aurez compris que si je mets P1 égale 1 et P2 égale 1, je vais obtenir delta 1, 2 égale delta 2, 1. Donc, ça veut dire que le déplacement vertical de ce point-ci, sous l'effet d'une charge P2 là-bas, est égal au déplacement vertical de ce... Pardon, sous l'effet d'une charge unitaire ici, est égal au déplacement vertical là-bas, sous l'effet d'une charge unitaire ici. Ok ? C'est le théorème de Maxwell. On le note souvent avec des petits delta parce que la notation est devenue un peu conventionnelle. Et donc ça s'écrit simplement sous cette formule-là. Delta 1, 2 est égal à delta 2, 1. On en reparlera très très rapidement dans le cadre de ce cours-ci, quand je vous parlerai de la méthode des déplacements la semaine prochaine. On expliquera que les matrices de Redox sont en fait symétriques. Ok ? Ça, vous le verrez en détail dans les cours de méthode numérique, notamment dans la méthode des éléments finis, c'est ce qu'on a. Et dans la méthode des résidus pondérés, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à voir ça. Ok, ça ne serait tardé. Mais vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on choisit des fonctions de pondération de manière à obtenir aussi cette propriété de symétrie qui est excessivement importante. Ok, bon, alors s'il n'y a pas de questions, je file plus loin. Et alors, je viens jusque beaucoup, beaucoup plus loin. Je viens jusqu'au chapitre ligne d'influence, qui est aussi présenté comme votre dernier chapitre, ou un dernier chapitre dans le syllabus. Ok, les acquis d'apprentissage pour cette partie du cours concernent l'établissement de configuration de chargement extrême. On a souvent des structures qu'on doit dimensionner. On vous dit, ok, on voudrait dimensionner une structure pour un pont pour passer d'une rive à une autre rive. Et puis le pont, on va le mettre sur des travées multiples. Et puis après, à un moment donné, on peut très bien se demander, OK, quel est le cas de charge le plus défavorable pour ce pont ? Est-ce que c'est quand je charge en entier ? Oui ou non ? Pas nécessairement. Admettons par exemple que j'ai envie de calculer le déplacement maximal à mi-travée. C'est pas en chargeant l'entièreté des travées que le déplacement sera maximum à mi-travée. Et pour quelle raison ? Parce que tout simplement, si j'ai un pont sur un pied multiple, vous verrez plus tard dans vos cours de ponts qu'on fait. On fait beaucoup de ponts sur la pile multiple. Un pont à béquille, par exemple, on pourrait imaginer un pont comme ceci. C'est un des exercices qui vous avait été proposé dans la méthode des forces.
Mais vous rendez compte que si vous cherchez une traversée voisine de la traversée centrale, les points ici, ils auront tendance à descendre, et donc ceux de la traversée centrale, ils auront tendance à monter. D'accord ? Donc si vous voulez maximiser le déplacement vertical vers le bas de la traversée centrale, bien, il faut nécessairement chercher uniquement la traversée centrale. Il ne faut pas chercher les traversées latérales. Ok ? C'est comme ça qu'on calculera le déplacement le plus important. Si vous voulez maintenant le moment le plus important ici au niveau de l'appui, si vous voulez le moment de flexion le plus important au niveau de l'appui, on s'attend évidemment à ce qu'il soit plus grand si on cherche les deux traversées qui sont les deux traversées voisines. Mais le moment au niveau de cet appui-là, en réalité, on le verra tout à l'heure, ça va devenir tout à fait limpide dans une demi-heure. Le moment qu'on obtient ici, en réalité, si je décide de charger cette travée-là, le moment, il sera plus petit que ce qu'il est dans ce cas-là. Donc c'est-à-dire que le chargement le plus extrême pour le moment de flexion au niveau de l'appui, eh bien, il est obtenu en chargeant uniquement ces deux travées-là, mais pas la première. Okay ? Ça, c'est un ensemble d'exemples, et vous êtes capable, en tant qu'ingénieur de structure, d'identifier les configurations qui sont les configurations les plus défavorables pour tel ou tel type d'effet dans une structure. Okay ? Donc par effet, je parle de déplacement, effort interne ou bien réaction d'appui. Ok, donc ça c'est un des objectifs. Et deuxième, bah, c'est de parler de chargement complet ou de chargement en damier. Ok, alors un petit exemple introductif pour rentrer dans la problématique. Ce serait le suivant. Donc, imaginons qu'on ait une poutre sur appui multiple comme celle-là. Et puis là, je vous ai représenté ici, sur la première image, je vous ai représenté le diagramme des moments dans la poutre sous l'effet de la charge P, qui est égale à 1, une charge P unitaire. Ok, ça doit devenir normalement maintenant évident pour vous que la forme du diagramme des moments, elle ressemble à ça. Ok, elle doit être égale à 0 là-bas, maximum en dessous de la charge. Elle remonte, elle est négative au niveau de l'appui, et puis elle s'amenuise au fur et à mesure qu'on avance vers l'extrémité de droite. Ok, parce que la structure est hyperstatique. Ok, et ça s'amenuise. On peut l'étudier, on peut le calculer de manière exacte et précise avec le théorème de Clapeyron, par exemple, okay, la méthode de Clapeyron. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la position de la charge P qui va me maximiser le moment dans cette section-là. Donc, je m'intéresse au moment à mi-travée dans la deuxième travée, et je voudrais savoir quelle est la position de cette charge P. Donc, la position, je vais l'appeler S. Et alpha, par contre, c'est un paramètre que je vais utiliser pour positionner la section où je m'intéresse au moment de flexion. D'accord ? La section droite où je m'intéresse à la réponse. Donc alpha, ça représente l'abscisse où je veux calculer le moment, et S, ça représente l'abscisse de la force appliquée. Et bien, vous voyez qu'ici, on a un petit moment qui n'est pas très grand, mais si la charge, je l'avais mise ici, bien, j'aurais eu un moment qui est beaucoup plus grand. Et puis la charge, si j'avais mise plus loin, ben là, j'aurais eu un moment plus petit, mais changé de signe. D'accord ? Et donc, on se doute bien que s'il fallait choisir parmi ces trois-là, laquelle est la plus défavorable ? C'est le milieu. Ok ? On est tous d'accord, c'est le milieu. Mais est-ce que c'est certain qu'on ait trouvé la pire ? C'est peut-être pas encore dit. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va reproduire sur un diagramme, en fonction de l'abscisse S qui correspond à la position de la charge, on va représenter la valeur du moment. Donc, c'est-à-dire que quand la charge est localisée à cet endroit-là, je vais représenter ici la valeur du moment dans la section alpha que j'ai calculée sous l'effet de cette charge-là. Quand la charge est appliquée à la section S2, mais je vais appliquer à l'abscisse S2 la valeur du moment que j'ai observée sous l'effet de cette charge-là. Et puis pareil, quand on l'applique à la section S3, etc. Et donc, en fait, en faisant ça, ben, idéalement, on devrait pouvoir balayer l'ensemble de toutes les positions possibles de manière continue, qui sont l'ensemble de toutes les positions possibles de la charge, et calculer la valeur du moment dans la section alpha. D'accord ? Donc la courbe que vous voyez en bas, c'est une fonction de S, okay, mais je sais que c'est perturbant d'emblée, parce que c'est la première fois que vous la voyez, c'est ce qu'on appelle une ligne d'influence. C'est une fonction de S qui représente l'endroit où la force est appliquée. Ça ne représente pas la valeur du moment dans la section qui est appliquée par S. On est bien d'accord ? Ok ? Donc on a quelque chose qui est différent. Compris ? Et donc, pour cet exemple-là, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit que si on avait envie de maximiser le moment positif, si je veux maximiser le moment positif, il est là-bas, et bien à la charge, je dois l'appliquer exactement à cet endroit-là. Si je veux calculer le moment négatif, le plus négatif possible, et bien je vais aller chercher les valeurs qui se trouvent dans la zone négative, et de toute évidence, soit c'est là, je ne sais pas très bien, mais les deux se valent. D'accord ? Donc dans le cas 3 et dans le cas 1, on voit qu'on a un moment négatif. Vous voyez, il est négatif ici parce qu'il est représenté au-dessus de la barre. On a un moment négatif qui est conséquent. Ok. Et donc, par exemple, j'en profite tout de suite pour illustrer l'utilisation d'une ligne d'influence. Si on voulait trouver le chargement de la structure qui nous permet de maximiser la valeur du moment au milieu de la seconde travée, qu'est-ce qu'on choisirait comme distribution de charge? Dites-moi. Florence? Non. Glenn? Thibaut? Ouais. Un petit peu plus fort que j'ai pas bien entendu. Le K2, oui. Et imaginons qu'on ait pas de force, qu'on ait la possibilité d'en mettre autant qu'on veut, d'intensité 8, hein, ou qu'on ait une charge uniformément répartie. Où est-ce que tu la répartirais? Exactement, bah on la mettrait partout où on peut sur la deuxième travée. C'est un peu ce que j'expliquais ici. On va essayer de charger l'entièreté d'une travée. Pourquoi? Bah parce que le signe de la ligne d'influence elle-même sur l'entièreté de la travée. On voit ici qu'on a que des valeurs positives, donc je mettrais même une petite force près de l'appui là-bas. Bah elle va contribuer positivement au moment. Et donc, en fait, je vais chercher l'entièreté de cette travée-là. Et en fait, si on était attentif, ben, on se rendrait compte qu'on pourrait gagner un petit roux-chou-chou rien qu'en chargeant la dernière travée. D'accord? Donc, le pire, eh ben, c'est en chargeant la deuxième travée et la quatrième travée. Et en faisant ça, c'est là qu'on aura le moment maximum à l'endroit où on s'intéresse. OK? Ça, c'est l'objectif des lignes d'influence. Vous avez compris ça? Vous avez compris à quoi ça sert? Alors, je vais essayer de le connecter avec autre chose que vous connaissez bien. Mais qui sont les diagrammes des moments. Alors bon, cette vue-là, elle est un petit peu particulière. Elle vise à la fois à faire en sorte que vous ne mixiez pas les concepts de ligne d'influence et de diagramme des moments, parce que ce sont deux choses qui sont fondamentalement différentes. Mais par contre, qui découlent de la même quantité. Imaginons que je sois capable de tracer... les diagrammes des moments, je vais commencer par ici parce que ça c'est un concept que vous connaissez bien. Imaginons que je sois en train de regarder les diagrammes des moments dans la structure pour différentes positions des charges. Alors vous vous souvenez que j'utilise l'abscisse alpha pour représenter la zone où je veux calculer le moment, d'accord ? Donc chacune des lignes que vous voyez là, par exemple la courbe en bleu, en fait ça représente un diagramme des moments. C'est une fonction de alpha. Et la sollicitation, elle est imposée en un certain point qui doit certainement être un point ici, voilà, au point qui est la première demi-travée, qui est le diagramme des moments qu'on voit là-bas. Donc cette courbe en bleu, en fait, n'est rien d'autre que ce diagramme des moments-là. Ok, c'est le même, je l'ai juste représenté en 3D. Je voudrais simplement représenter tous ces diagrammes des moments, 1, 2, 3. Je voudrais juste les représenter tous. En les superposant ou avec une vision tridimensionnelle. OK, en 3D. Et donc, si je varie la position ici S qui représente l'abscisse de la force appliquée et que je regarde pour différentes valeurs de la position de la charge appliquée, je vais avoir différents diagrammes des moments. OK, cette courbe-là, c'est une fonction qui est une fonction de alpha parce qu'elle me donne la valeur du moment de flexion dans la section alpha et c'est une fonction de S parce que j'ai considéré toutes les positions possibles du chargement. D'accord ? C'est une fonction de S et de alpha. Mais si au lieu de la regarder comme une collection de courbes qui dépendent de S, si au lieu de faire ça, je la regarde comme une collection, donc là voilà, hein, voilà à quoi elle ressemble, cette courbe-là, si je la regarde plutôt comme une collection de courbes qui dépendent des fonctions de S pour différentes valeurs de alpha, eh bien, qu'est-ce que je vais obtenir ? Ben, je vais obtenir ici... la valeur du moment dans la section alpha 1 en fonction de la position là où la charge a été appliquée. Et ça, c'est rien d'autre que ma ligne d'influence. OK ? Donc, ce que je représente dans l'autre direction, c'était le dernier diagramme de la dia précédente. OK ? Donc, ce qu'on voit là-bas, c'est rien d'autre que les lignes d'influence, c'est-à-dire la dernière ligne de ma dia précédente. D'accord ? Donc, en fait... le comportement de la structure, si vous voulez, on l'aura compris à partir du moment où on connaît cette fonction complète de S et de alpha. Et ça, on peut l'établir. Ce n'est pas excessivement compliqué à l'établir. On peut le faire. On peut même le faire analytiquement dans beaucoup de cas simples. Et d'habitude, cette fonction-là, si je vous demande de faire le calcul d'une structure pour différentes positions d'une charge, bien en fait, vous le voyez, ce diagramme-là, vous le voyez comme ce qu'on voit là à droite. Vous le voyez comme une fonction... une collection de diagrammes de moments.
Bien, si vous le regardez dans l'autre direction, au lieu de le couper comme ça, vous le tranchez dans l'autre sens, eh bien, vous voyez rien d'autre qu'une collection de lignes d'influence. Okay, et donc, ces deux informations étant identiques, sont tout à fait donc fatalement redondantes, et qu'on vous fournisse l'ensemble des diagrammes des moments, quelles que soient les positions des charges, ou qu'on vous fournisse l'ensemble de toutes les lignes d'influence, quelles que soient les sections où vous calculez le moment, ben en fait, vous avez exactement la même information. Ok, alors ben nous, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Ben, si on est capable de déterminer les diagrammes des moments, ça c'est quelque chose qu'on sait déjà faire aujourd'hui, et il nous faut une technique relativement simple pour essayer de mettre en place les lignes d'influence. Ok, alors je comprends que ceci n'aide pas nécessairement à trouver le chemin direct pour y arriver. Ok, c'est juste pour essayer de mettre en place les choses et de vous expliquer qu'on a bien quelque chose qui est différent des diagrammes des moments. Mais vous allez voir qu'en fait, la technique qu'on va développer pour y arriver, elle est excessivement simple. Alors bon, convention, on va essayer de dessiner les lignes d'influence avec le signe positif vers le haut. Ok, ça c'est du détail, on verra ça dans les exercices. L'utilité de la ligne d'influence, je l'ai déjà discuté. L'objectif premier, c'est de trouver la position la plus défavorable d'un chargement donné, en commençant d'abord par une charge concentrée. Okay, et l'idée, c'est de déterminer, évidemment, in fine, la valeur de l'effet, qui est la valeur maximale. Donc, par exemple, à l'intérieur, on pourrait très bien vous demander, ok, voilà une poutre sur API multiple, ou bien voilà une structure comme celle-ci. On va vous dire, au lieu de vous dire, utilisez la méthode des forces pour calculer la valeur du moment à cet endroit-là, on va vous dire, maintenant que vous aurez compris comment ça marche, trouvez le chargement le plus défavorable qui va vous permettre de maximiser le moment à cet endroit-là et donner la valeur du moment. Donc une fois que vous aurez déterminé le chargement avec la ligne d'influence, vous aurez la possibilité de donner la valeur maximale de la réponse qu'on demandait d'étudier. D'accord ? Ok, alors ensuite, donc, trouver les zones à charger par une charge distribuée, ben, ça on l'a illustré aussi. Alors oui, donc, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que L, c'est un symbole que j'utilise, le L calligraphique, c'est une fonction de S, d'accord? Et j'utilise un point virgule parce que j'ai pas envie d'écrire que c'est une fonction de S et de alpha. D'accord? Pour moi, le F de S et de alpha que j'ai représenté ici, vous voyez, je mets une virgule, la différence est subtile. Là, je mets une virgule pour dire que c'est une fonction de deux paramètres. Là, je mets un point virgule pour indiquer que c'est une collection de fonctions de alpha pour différentes valeurs discrètes du paramètre S. Vous voyez, on a plein de courbes pour différentes valeurs de S. Là, c'est une fonction de S, mais par contre, pour un ensemble de valeurs du paramètre alpha. D'accord ? Donc le point virgule indique que tout ce qui se trouve derrière le point virgule sont des paramètres qui sont fixés. Okay ? Et donc j'appelle L de S point virgule alpha, mais généralement je ne le dis pas, je dis L de S tout simplement, c'est simplement la valeur d'un effet, qui est l'effet recherché, par exemple le moment de flexion tout à l'heure, sous l'effet d'une charge unitaire appliquée à la section S. Alors on va balader surtout des charges unitaires, et on va quasiment ne faire que balader des charges unitaires, et pourquoi? Parce que si elle n'était pas unitaire, principe de superposition, il suffirait de multiplier la valeur de la ligne d'influence par l'intensité réelle de la charge qui se balade, et on va la multiplier par P l'intensité, de manière à calculer la réponse. Okay? Excessivement simple, c'est linéaire. Et si au lieu d'avoir seulement une charge qui se balade, mais si on en avait plusieurs, okay, comme la question de Tom tout à l'heure, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait simplement la somme des P fois les effets. Tout simplement. Et si on n'avait pas que des charges concentrées, mais qu'on avait aussi des charges réparties, ben on ferait l'intégrale sur la zone chargée de A à B, Q de S, c'est pas indiqué explicitement, mais Q peut être une fonction de S, fois la ligne d'influence. Ok, et au bout du compte, on obtient directement la valeur de l'effet qui est recherché, par exemple la valeur du moment de flexion. Ok, pas de questions jusque-là? C'est bien, c'est que c'est très clair. Alors, on peut se donner deux exemples. Qu'est-ce qu'on a par exemple ici? Si je regarde la valeur du... Oui, mais en fait, c'est un peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure. La valeur du moment ici... au milieu de la travée, de la seconde travée, puisque la ligne d'influence a cette forme-là, c'est la première ligne d'influence qu'on a regardée. Mais si on a envie d'avoir la valeur maximale du moment, on charge, comme on l'a dit tout à l'heure, cette travée-là, éventuellement ici, mais il y a peu d'influence, et si vous vouliez le moment minimum, eh bien vous chargez les autres travées. Alors, de manière générale, quand on regarde, ok, vous allez comprendre tout à l'heure que, en fait, ceci correspond à une déformée d'une poutre, mais si on imagine une ligne d'influence, elle doit toujours, quand on a des poutres qui sont continues, elle doit toujours s'alterner. Et elle doit toujours s'alterner au niveau des appuis. Et donc, on va toujours passer de positif à négatif, positif à négatif. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ça un chargement en damier. On appelle ça un chargement en damier parce qu'on va charger pour maximiser ou pour minimiser toutes les travées d'ordre pair ou toutes les travées d'ordre impair. Okay, donc là, on a chargé toutes les travées d'ordre pair. Celle-là, on aurait pu le faire aussi, mais je disais simplement qu'il y a peu d'influence. Et là, toutes les travées d'ordre impair. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça damier? Parce que là, c'est simple. Là, on parle simplement d'une poutre sur appui multiple. Vous verrez plus tard, quand vous étudierez des bâtiments, vous l'avez peut-être déjà fait sans le savoir dans vos cours de métal, quand on étudie un bâtiment, eh bien, en fait, on doit systématiquement considérer le cas de chargement en damier, parce que c'est un cas de chargement qui va maximiser des moments à mi-travée. Quels des moments à mi-travée? Des moments positifs. Ok, en revanche, si on s'intéresse aux moments sur-appui, on le fera tout à l'heure, vous aurez l'occasion de le faire beaucoup dans le cadre d'exercices, mais vous voyez que si on s'intéresse au moment de flexion sur appui, ici, qui est donc un moment négatif, on devra charger deux travées qui sont deux travées adjacentes. Okay, et de nouveau, vous allez voir tout à l'heure dans le cadre des exercices que c'est évident qu'on soit obligé de charger les deux travées adjacentes, et puis on en passe une, et puis on prend la suivante, on en passe une, on prend la suivante, on en passe une, on prend la suivante, etc. etc. Okay, donc le damier se répète un peu plus loin. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer des lignes d'influence? Je veux dire, quand on est en 2020, ce n'est pas compliqué, parce qu'on a des ordinateurs, et qu'on peut très bien se dire, oh ben, je vais prendre la force P égale à 1, et je vais la mettre, à tous les endroits possibles, et je vais demander à mon ordinateur de calculer. Ok, c'est ce qu'on pourrait faire. Mais je pense qu'il y a quelques logiciels qui existent et qui font du calcul de lignes d'influence. Je pense qu'il n'y en a aucun qui fonctionne comme ça, même si on est en 2020. Ils fonctionnent toujours comme à l'époque, de Muller-Breslau et Betty Maxwell et de ces gars-là qui ont inventé les lignes d'influence. Okay, donc ce que j'explique au début, en répétant l'analyse un grand nombre de fois, donc c'est-à-dire en positionnant les cas charges, la charge à différents endroits, on pourrait y arriver, mais ce n'est pas ça qu'on fait d'habitude. On utilise plutôt le théorème de Land, qui a été formalisé par Land avec les travaux de Muller-Breslau et de nouveau la même équipe de mathématiciens qui travaillait avec lui. Alors, dans ces théorèmes de Land, on a deux types de lignes d'influence. On va séparer la ligne d'influence des effets, ce qu'on appelle les effets géométriques, tout ce qui est cinématique, et les lignes d'influence des efforts intérieurs, ou bien des réactions, tout ce qui est plutôt statique. Okay, déplacement d'un côté, effort de l'autre. Donc, dans déplacement, j'inclus évidemment aussi les rotations. Donc, si on s'intéresse à des lignes d'influence de déplacement ou de rotation, on aura un théorème et une méthode. Et si on s'intéresse aux lignes d'influence d'effets mécaniques, on aura un autre théorème et donc une autre méthodologie à utiliser. Alors, je vous ai représenté ici, c'est une petite structure simple. J'essaie de regarder les conditions limites. Là, ça a l'air encastré, là, c'est appuyé, et là, c'est appuyé. Je vais laisser réfléchir une toute petite seconde. Et donc, en fait, ce que je représente ici, ce sont des lignes d'influence de trois effets géométriques. La flèche en C, la flèche en D et la rotation en B. Il n'y a pas de force qui est dessinée dessus, hein, on est bien d'accord, parce que c'est une ligne d'influence. Donc la force, elle se balade. La force, elle est unitaire et elle se balade. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, évidemment, si la force, elle est verticale et qu'elle est appliquée ici en C, c'est logique d'avoir un déplacement ici. Positif, il est positif vers le bas, mais c'est logique d'avoir un déplacement positif au point C. Si par contre la force elle était appliquée là-bas, là on aurait une déformée qui fait ceci, okay, et le déplacement vertical du point C il était négatif. D'accord, donc là on a des valeurs négatives, et là on a des valeurs positives. Vous avez bien compris? Est-ce que ça vous paraît logique d'avoir une forme comme ceci pour la flèche en D? Ben, ça paraît logique. Si je mets une charge verticale ici, ben, c'est là que je vais avoir le déplacement maximum positif. Si je mets une charge verticale ici, la déformée, elle va être comme ceci, et j'aurai un déplacement vers le haut, mais qui, en amplitude ou en intensité, sera plus faible. D'accord? Pareil pour la rotation. Alors, est-ce que vous voyez, maintenant, quand vous voyez la ligne d'influence, est-ce que, à votre avis, la forme de cette ligne d'influence vous rappelle quelque chose que vous connaissez? Ok, je viens d'introduire le fait qu'elle était intuitivement correcte, en tout cas dans la Lune. Est-ce qu'à votre avis, elle pourrait correspondre à quelque chose que vous imaginez? Oui? Ah, la déformation sous quoi? Sous quelle charge?
Non, parce que si on regardait la déformation sur charge des parties ici, on aurait certainement quelque chose qui fait ça. Donc, si tu regardes la déformation sous charge uniformément répartie, voilà, ça fait ça. C'est pas tout à fait ça. Donc, il faut quand même que dans le raisonnement, il faut quand même qu'on se dise que, tu as raison, hein, c'est une déformation, et si l'effet est quelque chose, il faut quand même qu'on se dise que cette déformation, c'est sous l'effet d'un chargement, et puisque je regarde la flèche en C, il faut quand même que le chargement dépende du fait que je regarde la flèche en C, ou la flèche en D, ou la rotation en D. Alors ça pourrait bien être quoi?
Facile. Pour CLD, ce serait des charges ponctuelles au point C et au point D, et en D, ce serait un mouvement au point D.
Magnifique, magnifique. On s'intéresse à la ligne d'influence de la flèche en C. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un effort unitaire au point C. On va appliquer un effort unitaire au point C. Et on va regarder la configuration déformée. OK, c'est juste comme si j'avais une charge verticale au point C, mais j'ai changé de signe. D'accord? Regardez en D. Imaginez la configuration déformée que ceci pourrait prendre si j'applique une charge verticale unitaire vers le haut. Eh bien, en fait, c'est exactement cette déformée-là. OK? Imaginez la déformée que la poutre pourrait prendre si j'appliquais un moment ici, unitaire, en B. Eh bien, en fait, c'est exactement cette déformée-là. OK? Et en fait, ça, c'est un des théorèmes de Lyne, vous allez le voir, on va le démontrer dans une minute. C'est logique, je vous ai parlé de Betty Maxwell tout juste avant. En fait, c'est logique que Betty Maxwell, on va pouvoir le relier directement avec cette méthodologie. C'est excessivement, excessivement simple. Ouais?
Les deux premiers schémas, c'est une ligne d'influence, c'est deux fois.
Oui, ce sont toutes les deux des lignes d'influence.
Pourquoi c'est pas deux fois la même, alors que la ligne d'influence, c'est une force verticale qui se dépasse.
Exactement. Oui.
Pourquoi on n'a pas deux fois la même?
Alors, parce que je regarde au-dessus, donc la force, elle se balade ici, d'accord, elle avance, elle prend différentes positions, mais quand la force est à cet endroit-là, la configuration déformée, elle fait probablement ceci. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ici, c'est de regarder uniquement la flèche en C. D'accord? Donc c'est la flèche en ce point-là. Ça, c'est l'axis C, et c'est la flèche qui m'intéresse. D'accord? Donc je vais faire peut-être, si tu veux, le même dessin que celui que j'ai fait tout au début avec le mouvement. Si la force appliquée était appliquée à cet endroit-là, mais j'aurais eu certainement une déformée plus petite parce qu'on est plus proche d'un appui. Et là, ça monte, mais ça monte un peu moins haut, etc. Ok? Donc si j'avais mis maintenant la force à cet endroit-là, mais j'aurais eu une déformée qui ressemble à ceci. Et donc, pour la valeur du dépassement en C, j'aurais eu une certaine valeur. D'accord? Donc, la première courbe, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente ici, elle représente cette valeur-là. Okay? Au droit de cette force-là, c'est-à-dire un petit peu avant l'appui, ici, elle représente cette valeur-là. Et encore un petit peu plus à gauche, cette courbe-là, elle représente cette valeur-ci. D'accord? Donc là, tu vois qu'on a 1, 2, 3 cas particuliers aux valeurs qui sont prises dans la première. Par contre, la deuxième courbe, okay, la flèche en D, ici, qu'est-ce qu'elle nous donne? Ben, elle nous donne la valeur du déplacement en D en fonction de là où on a appliqué la force. Tu vois? Et donc, les effets, on peut avoir autant d'effets qu'on veut, c'est le petit paramètre alpha. On aurait pu regarder la flèche en n'importe quel point. D'accord? Alors que S, de nouveau, c'est pareil, la sollicitation, on peut l'appliquer en n'importe quel point. Ça va?
Du coup, la ligne d'influence, en fait, c'est pas où on déplace la force, c'est pas chaque fois la valeur maximale en chaque endroit. En fait.
Non, c'est la valeur qu'on a en une section qui est la même, quelle que soit la section qui est la même pour l'entièreté de la ligne d'influence. D'accord? Donc, je m'intéresse uniquement à la flèche au point C et à rien d'autre, et c'est cette valeur en fonction de la position de la charge. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on a pour les déplacements. Et donc, on vient d'anticiper. Et en fait, on vient de se rendre compte, effectivement, que pour les calculer, bah, c'était facile. Il suffit d'appliquer une charge unitaire à l'endroit, une force unitaire ou bien un moment unitaire à l'endroit où on a envie de calculer la ligne d'influence, et ce sera gagné. Je vais vous le démontrer dans quelques minutes. Il y a encore une autre question, non? Ok, je croyais. Alors maintenant, l'autre famille de lignes d'influence, c'est quoi?
Ce sont les lignes d'influence des quantités statiques, donc des efforts intérieurs et des réactions d'appui. Alors là, je vous les montre. Regardez par exemple la ligne d'influence du moment en A, voilà à quoi elle ressemble. Pour le moment, si vous voulez, imaginez que c'est un ensemble de points qui sont connectés les uns après les autres et qu'on aurait pu calculer avec en répétant une analyse de la structure pour plein de positions de chaîne. Okay, voilà ce qu'on obtiendrait pour l'effort tranchant en A. Vous voyez que c'est un peu plus particulier. Ça, c'est clairement pas une déformée d'une structure. Hein. C'est pas une déformée d'une structure, de la structure de départ, en tout cas. Pour quelle raison? Bah, parce qu'on voit bien qu'on ne respecte même pas la condition d'appui ici. Et la réaction en B, ben vous voyez que la réaction en B, en fait, elle sera toujours positive dans cette structure-là. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où la charge est appliquée, depuis loin à gauche jusqu'à loin à droite, la réaction est positive et elle est maximale. Et évidemment, elle est maximale quand la force est appliquée au droit de la réaction. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on aurait pu obtenir ces lignes d'influence? Magnifique. Donc il faut libérer. Qu'est-ce qu'il faut libérer? On va libérer quelqu'un, pas la princesse des neiges. Qu'est-ce qu'on voulait libérer?
Par exemple, pour la deuxième, ce serait l'appui en A.
Exactement. On a libéré la composante verticale de l'appui en A. C'est logique, on cherche un effet tranchant. Pour la première, qu'est-ce qu'on va libérer? Qu'est-ce qui est associé? Exactement, la rotation. Qu'est-ce qui est associé au moment? C'est la rotation. Donc on va remplacer l'appui qui est à gauche, là-bas, on va le remplacer par une rotule. Et si on ne le remplace pas par une rotule, donc on va le remplacer par une rotule, et on va appliquer un moment unitaire. D'accord? Donc je cherche la ligne d'influence du moment, je remplace l'encastrement, donc je vais libérer la grandeur cinématique qui est associée à la grandeur statique qui m'intéresse, ou à l'effort qui m'intéresse, et je vais appliquer un effort unitaire. Ok? Donc, là, je mets une rotule et j'applique un moment. Là, je mets un appui à rouleau et j'applique une rotation unitaire. En réalité, vous allez voir ça dans un instant. Là, je mets un appui à rouleau, j'impose un déplacement unitaire. Et là, quand je m'intéresse à une réaction, qu'est-ce que je fais? Bien, je la libère, tout simplement, la réaction. J'enlève la réaction et j'impose un déplacement unitaire. Quelle est la configuration déformée? C'est celle qu'on voit là-bas. D'accord? Donc ça, je vais vous le démontrer avec un tout petit peu de mathématiques. Je regarde si c'est raisonnable de faire ça tout de suite. Je vais d'abord vous parler du premier, des effets géométriques. Puis on fera une petite pause, je vous parlerai des effets mécaniques après. Donc pour les effets géométriques, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la ligne d'influence d'un effet géométrique s'obtient en appliquant une force unitaire ou bien un moment unitaire conjugué à l'effet recherché. La déformée de la structure ainsi obtenue donne la ligne d'influence recherchée. Donc pour obtenir la ligne d'influence d'un déplacement, on doit appliquer un effort dans la direction du déplacement recherché. Pour obtenir la ligne d'influence d'une rotation, on doit appliquer un moment unitaire, une force unitaire ou un moment unitaire. Et pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Eh bien, c'est immédiat grâce au théorème de Betti-Maxwell. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Betti-Maxwell? Il nous dit simplement, admettons que, on va regarder cet exemple-là, c'était plus facile sur base d'un exemple. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de calculer la valeur du déplacement vertical ici. Ok? Et je voudrais calculer la ligne d'influence du déplacement vertical de ce point-là. Si je m'intéresse à la ligne d'influence du déplacement ici, ça veut dire que je voudrais calculer la valeur de delta 1,2, quelle que soit la position de la charge quand elle se balade. D'accord? Alors, la charge, elle se trouve à une abscisse, disons S, qui est une variable. C'est-à-dire que cette charge ici, on va à gauche, elle se trouve à une abscisse S, et S, c'est la variable. Vous le voyez, je l'ai rappelé ici, j'ai écrit L de S. Donc, c'est-à-dire que S, c'est bien une variable, point virgule alpha, le paramètre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer delta 1,2 sous l'effet d'une charge unitaire ici. Mais en fait, le théorème de Maxwell qu'on vient de voir, il nous dit simplement que delta 1,2 est égal à delta E2,1. Et donc il vous dit, si vous voulez calculer le déplacement vertical sous l'effet d'une charge unitaire ici, eh bien vous n'avez qu'à mettre une charge unitaire là-bas et calculer le déplacement vertical là-bas. Ok? C'est ce qu'on vient tout juste de voir, c'est le théorème de Maxwell. Et donc, en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer le déplacement delta 1,2 quand S varie, donc c'est-à-dire comme fonction de S. Donc le déplacement delta 1,2 en fonction de S, eh bien, c'est le même que le déplacement delta 2,1 en fonction de S. Et le déplacement delta 2, 1 en fonction de S, ben c'est cette courbe-là. C'est la déformée de la structure qu'on obtient quand on met une charge unitaire à cet endroit-là. OK ? Et donc la déformée de la structure qu'on obtient quand on met une charge unitaire à l'endroit où on veut calculer le déplacement, okay, c'est l'ensemble de tous les delta 2, 1. Donc c'est l'ensemble de tous les delta 1, 2. C'est l'ensemble de tous les déplacements qu'on aurait calculés au point qui nous intéresse, quelle que soit la position de la charge appliquée. D'accord ? Quand elle varie. Et ceci donc démontre que pour calculer la ligne d'influence d'un effet géométrique, il suffit d'appliquer une charge unitaire conjuguée au déplacement ou à la rotation qui nous intéresse et de calculer la déformée de la structure sous l'effet de cette charge unitaire. D'accord ? Donc quand je vous disais qu'aujourd'hui, il n'y a aucun logiciel qui calcule des lignes d'influence en regardant toutes les positions possibles de la charge, c'est pour quelle raison ? Ben, c'est parce qu'on se rend compte que tout simplement, si on voulait calculer la ligne d'influence d'un déplacement en un point, ben, il suffit d'y appliquer une charge unitaire verticale. Basta, c'est terminé. Okay, vous voyez, c'est immédiat. Tout ça grâce au théorème de Land. Ceci, c'est le deuxième théorème de Land. Je propose de faire une toute petite pause, et puis après, je parlerai du premier théorème de Land, qui est celui des effets mécaniques. Alors, si vous avez compris comment ça marche pour les effets géométriques, vous savez maintenant que ça a à peine compliqué pour les effets mécaniques. On sait déjà en plus que ce qu'il faut faire, c'est coupler la structure et puis appliquer une sollicitation. Donc, c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. C'est le premier théorème de Land. Et donc, qui dit que la ligne d'influence d'un effet mécanique s'obtient en coupurant la structure selon l'effet recherché et en imposant un déplacement unitaire des lèvres de la coupure. La déformée de la structure ainsi obtenue donne la ligne d'influence recherchée. Donc, je rappelle peut-être juste un exemple, comme ça on fixe bien les idées. Je vais prendre les mêmes exemples que ceux qu'on avait là-bas. Donc, on a une poutre qui est encastrée, appuyée. Et je m'intéresse par exemple à la valeur du moment d'encastrement ici. Donc je vais le dessiner comme ça. Vous savez qu'il est négatif, c'est pour ça que je le dessine dans ce sens-là. C'est le moment d'encastrement, donc c'est un négatif. Et donc ce que le premier théorème de Land nous dit, il nous dit simplement, ben voilà, les gars remplaçaient l'appui en libérant l'effet, donc en libérant la grandeur cinématique associée à l'effet recherché. Donc ça veut dire ici que je libère la rotation, parce que c'est elle qui est associée au moment. Et ensuite, je n'ai qu'à imposer une rotation unitaire. Donc je vais dire ici, je vais imposer phi égale 1 aux lèvres de la coupure. Donc en fait, pour être précis, je vais imposer un phi unitaire. Je vais le mettre dans le même sens que là-bas, pour être cohérent. Donc je dois le mettre comme ceci, 1 et 1. D'accord ? Si j'introduis une rotule, devrait a priori imposer une rotation unitaire. Celle de gauche, en fait, ne nous intéresse pas du tout, parce qu'elle passe directement dans l'appui, donc on ne se tracasse pas de ce qu'il y a là-bas. Et donc on doit regarder la déformée de la structure sous l'effet de cette charge-là. Et donc si on regarde la déformée de la structure qu'on va obtenir, et là, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Okay, c'est ça simplement ce que le théorème de Land nous dit. Tiens, à votre avis, à quoi ressemblerait... Oui, et donc en fait, on retrouve cette histoire de damier, on le retrouve encore ici, si vous voulez. Donc si on voulait maximiser la valeur du moment d'encastrement ici à gauche, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait charger l'entièreté de cette travée. L'entièreté de la première travée. Et surtout, ne rien toucher au niveau de la travée de droite. Qu'est-ce que ça aurait donné si on parlait du moment sous l'appui ? Donc si on parlait du moment sous l'appui, on aurait ceci. Et moi, je m'intéresse au moment sous l'appui. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Le théorème de Land, il me dit, libère la grandeur cinématique qui est associée à la grandeur qui t'intéresse. Si c'est le moment sous l'appui qui m'intéresse, je dois libérer le moment sous l'appui, donc je vais introduire une rotule. D'accord ? Donc, je vais modifier cet appui-là et je vais le remplacer en... Allez, je vais le laisser dessiner comme ça. Je vais le dessiner encore autrement. Je vais le dessiner comme ceci. Parce que je sais que vous êtes plus à l'aise avec cette représentation-là. Voilà. Voilà.
D'accord, donc j'ai libéré le moment sur appui en le forçant égal à 0, donc j'ai introduit une rotule. Et puis qu'est-ce que je dis ensuite? Mais je dis qu'il faut impliquer un couple de moments unitaires à gauche et à droite. Et alors, mais si je regarde la déformée, je vais avoir ça, et je vais avoir ça. Et vous voyez la déformée, vous voyez dans ce cas-là, la déformée a le même signe sur les deux travées adjacentes. Ok, c'est logique, hein, elle a le même signe sur les deux travées adjacentes. Et donc si je veux maximiser le moment sur l'appui, qu'est-ce que je dois faire? Bien, dans ce cas-là, je dois charger l'entièreté de la structure. Ok, c'est ce que je vous ai expliqué tout au début avec le point d'équilibre. Si vous voulez maximiser le moment sur l'appui, vous devez charger les deux travées adjacentes. Ok, bon, démonstration. Démonstration du premier théorème de Land. Donc peut-être juste avoir quelques cas particuliers, les cas d'application habituels. Donc pour calculer la ligne d'influence d'une réaction, on doit relâcher la réaction et apposer un déplacement unitaire au niveau de l'appui où on veut calculer la réaction. Exemple, si par exemple je m'intéressais à la réaction verticale ici à droite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois relaxer, simplement relâcher la réaction à droite. Donc si je veux relâcher la réaction à droite, je vais transformer l'appui en un appui comme celui-là. Ok ? Donc c'est que la composante verticale, je veux qu'elle soit nulle, donc je le transforme en appui comme celui-là. En fait, vu que c'est une poutre, on sait très bien que l'effort axial, il est égal à 0, donc c'est comme si je n'avais pas mis d'appui du tout. On est d'accord ? Donc je peux l'effacer. Et puis qu'est-ce que je fais ? Je dois imposer un déplacement unitaire, j'impose un déplacement unitaire, et je regarde la configuration déformée. Ça, c'est la ligne d'influence de la réaction à droite. Donc la réaction, elle est positive. La réaction est positive si la charge est appliquée sur cette travée-là, et elle est égale, elle est au maximum, et elle est égale à 1, puisque la charge qui se balade, elle vaut 1, elle est égale à 1 ici, et puis en fait, on peut utiliser la ligne d'influence, là, elle ne vaut plus que la moitié, et là, elle vaut moins 1,5 peut-être. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, c'est comme ça qu'on a interprété la ligne d'influence. Deuxième cas, la ligne d'influence d'un moment d'encastrement, ben, ça on l'a vu, on relâche la réaction et on impose une rotation unitaire. Ensuite, la ligne d'influence d'un effort tranchant, eh bien, on va relâcher l'effort interne. Comment est-ce qu'on fait pour relâcher l'effort tranchant? Vous vous souvenez? On a vu ça ensemble il y a deux semaines en parlant de la méthode de force. Si je m'intéresse à l'effort tranchant, par exemple ici, à mi-travée, qu'est-ce que je vais faire? J'introduis exactement un plateau. Donc je relâche, j'introduis uniquement un plateau. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais imposer maintenant un déplacement unitaire relatif, un déplacement relatif unitaire au niveau de la coupure. Donc ça veut dire que je veux que ça monte ici d'une certaine quantité et que le déplacement relatif entre les deux soit égal à 1. Ok, donc ça vous allez... Oups, pas bon ça. Ça vous allez travailler au niveau des TP. Donc, si je veux m'intéresser à un effort tranchant, j'ai introduit un plateau et j'impose un déplacement relatif unitaire. Donc, c'est cette quantité-là qui vaut 1. Donc, si vous voulez connaître la valeur de l'effort tranchant, quand la charge est appliquée, ici, bien, vous savez que ça vaut 1, et vous savez combien va valoir l'effort tranchant si la charge est appliquée là. Ok, donc ça, c'est un exemple. Et alors, le dernier, on l'a vu aussi, c'est le moment, la ligne d'influence d'un moment de flexion. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit relâcher le moment de flexion, donc ça veut dire introduire une rotule, et imposer une rotation relative unitaire aux lèvres de la coupure. Oui, c'est vrai que j'ai mis des moments unitaires de chaque côté, mais en fait, pour être plus précis, c'est vrai que je devrais dire que ce qui m'intéresse, je vais le redessiner ici, ce sera plus précis, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'imposer une rotation unitaire. Donc, on fait comme ceci. On va avoir ça, on va avoir ça, et moi ce que simplement je dis c'est que là on a une rotation qui est une rotation unitaire. Ok, et évidemment qu'on obtient si vous voulez en imposant des moments à gauche et à droite. Alors donc, démonstration maintenant de ce théorème de Land, vous allez voir si vous avez compris. Le premier, vous allez voir que celui-ci n'est pas beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc imaginons qu'on appelle S0, vous avez vu, si vous avez lu les notes de cours, vous avez vu que j'utilise souvent S rond pour indiquer la structure isostatique de référence ou bien la structure hyperstatique d'où on part. Ok, donc je vais appeler S0 la structure dans laquelle on doit calculer la ligne d'influence. Et H, c'est son degré d'hyperstaticité. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je vais créer la structure S-1. Je vais créer la structure S-1 qu'on obtient en coupurant dans la structure S0 la grandeur cinématique qui est associée à l'effet qui nous intéresse. D'accord? Soit S-1, la structure coupurée obtenue à partir de S0 et dans laquelle une coupure simple relative à l'effet mécanique recherché a été pratiquée. Son degré d'hyperstaticité vaut donc H-1. Je ne vous pose pas la question, ça devrait être évident. Si le degré d'hyperstaticité dans S0 c'est H, une fois que j'ai fait une coupure, il reste H-1. Fait, ça vient de vous compris. Alors on va faire un raisonnement qui est similaire à celui qu'on fait d'habitude dans la méthode des forces. Et on va écrire une équation de compatibilité de la structure S-1. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement dit que dans la structure S-1, j'ai autorisé la rotation, j'autorise la rotation, mais en fait dans la structure S0, la rotation n'est pas autorisée. La rotation relative, en réalité, elle est nulle. Exactement comme quand on écrit les équations de compatibilité dans la méthode des forces, qui maintenant est une méthode que vous connaissez bien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le déplacement qui est conjugué à l'effet mécanique étudié, il doit s'annuler, parce qu'en fait, la structure, elle était continue. Sous l'effet combiné de deux choses. De la sollicitation unitaire qui se balade, donc le P égale à 1, qui se trouve pour le moment à l'abscisse S, et de la valeur de l'effet mécanique extériorisé. Donc, j'ai extériorisé le moment. Je n'ai pas mis le moment de flexion à cet endroit-là, mais si je calcule à la fois la charge unitaire qui se balade et le moment à l'intérieur de la structure, ben la rotation relative doit être nulle. Je pense qu'on a un autre exemple ici qui va nous permettre d'illustrer tout ça. Si on doit regarder, par exemple, c'est un arc à deux rotules, il est combien de fois hyperstatique celui-là? Un arc à deux rotules. Allez, très bien, une fois, c'est tout ça en cœur, normalement vous devriez le dire. Celui-là, il est juste une fois hyperstatique. Et si je m'intéresse par exemple à la poussée de l'arc, donc c'est-à-dire à la réaction horizontale ici à gauche, je voudrais calculer la valeur de la réaction horizontale, quelle que soit la position de la charge P unitaire qui se balade dessus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça c'est la structure S0, mais je vais considérer une autre structure qui est la structure S1, dans laquelle j'ai libéré le déplacement horizontal. Et bien qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire que dans la structure S-1, sous l'effet de la charge P égale à 1 et sous l'effet de ce que je ne connais pas encore, mais qui est la réaction horizontale ici, sous l'effet de la réaction horizontale, en fait, le point ne bouge pas. Exactement comme dans une méthode de compatibilité, dans une équation de compatibilité. Et donc, on dit quoi? Ben, on dit que le déplacement sous l'effet de la charge unitaire qui se balade, plus le déplacement qu'on obtient sous l'effet de la réaction qui est inconnue, la somme de ces deux déplacements doit être égale à zéro. Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, la ligne d'influence de l'effet qui nous intéresse de l'effet recherché est égale à moins delta 1,2 sur delta 1,1. Et delta 1,2, c'est quoi? C'est le déplacement dans la structure coupurée qui est conjugué à l'effet recherché sous l'effet de la sollicitation unitaire. C'est ce que je viens de dire. Donc c'est le déplacement de la structure ici, coupurée, sous l'effet de la sollicitation unitaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va de nouveau utiliser le théorème de Betty Maxwell, qui nous dit quoi? Qui nous dit que le delta 1,2 est égal à delta 2,1. Et il va nous dire, bah, plutôt que de calculer sous l'effet d'une charge mobile, ici P, qui se trouve, on ne sait pas très bien où, le déplacement à chaque fois du même point, bah, faites le contraire. Il dit, appliquez une charge unitaire là-bas, et regardez plutôt le déplacement vertical que vous allez avoir partout ailleurs dans la structure. Okay, et ça, c'est le delta 2,1 qui est égal au delta 1,2. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on voit ça, la ligne d'influence, elle est proportionnelle. C'est ça que je retiens. Le delta 1,1, ça, c'est pas une grandeur qui est très importante. C'est juste une grandeur qu'on va utiliser pour mettre à l'échelle. C'est le déplacement conjugué à l'effet recherché, donc le déplacement horizontal, sous l'effet d'une valeur unitaire de l'effet recherché. C'est une grandeur qui est constante. Elle ne va pas nous intéresser. C'est pas une fonction de S. Et c'est pas une fonction de alpha. En tout cas, c'est pas une fonction de S. Puisqu'elle ne dépend pas de là où P1 était appliqué. D'accord? Donc, ce que je retiens de ceci, c'est que le N, la ligne d'influence, elle est proportionnelle à delta 1,2. Ou bien, puisque delta 1,2, c'est delta 2,1, elle est proportionnelle à delta 2,1. C'est exactement ça qu'on doit retenir. Et donc, ça veut dire que
La ligne d'influence, c'est quoi? C'est quelque chose qui est proportionnel à la forme déformée qu'on obtient ici, donc au déplacement en vertical, à la forme déformée, à la composante verticale de la déformée ici, qu'on obtient en appliquant une charge unitaire dans la structure qui a été coupurée. Okay? Et c'est exactement ça que je vous ai expliqué au début. Théorème de Lange, premier théorème, nous dit qu'on doit prendre la structure coupurée, appliquer un effort unitaire qui est conjugué à la grandeur qu'on veut rechercher, la grandeur mécanique qui nous intéresse, et puis regarder simplement la configuration déformée de cette structure. Et c'est ça qui nous donne la ligne d'influence, ou quelque chose qui est proportionnel à la ligne d'influence, ici, moins delta de 1. Alors pourquoi est-ce que je parle de déplacement vertical? Pourquoi est-ce que je parle de déplacement vertical ici? Ben parce que vous voyez que les points de cet arc, par exemple, je prends l'exemple d'un arc, on ne va pas travailler beaucoup avec des arcs dans le cadre des travaux pratiques. Vous allez voir qu'on a essentiellement décidé de nous faire travailler avec des poutres. Vous allez travailler essentiellement avec des poutres sur la plus multiple, c'est déjà pas mal pour commencer. Mais pourquoi est-ce que je parle du déplacement vertical? Ben parce que pour pouvoir appliquer le théorème de Betti, il faut que la charge unitaire qu'on applique ici soit conjuguée avec le déplacement qui est là-bas. C'est parce que je suis en train de regarder la poussée dans l'arc sous l'effet d'une charge verticale qui se déplace. C'est une charge verticale qui se déplace ici. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la composante verticale du déplacement sous l'effet de la charge unitaire. Si je m'intéressais, par exemple, à la réaction horizontale ici, en bas à gauche, sous l'effet de charge horizontale qui se balade, qu'est-ce que je devais regarder? Mais je devais simplement appliquer une charge unitaire ici, et puis regarder de combien chaque point se déplace horizontalement, tout simplement. Parce que c'est la grandeur qui est conjuguée à la direction dans laquelle la sollicitation P égale 1 agit. Ok? Si ce n'est pas encore tout à fait clair, vous allez voir que ce sera beaucoup plus dès que les exercices arriveront. Oui, il y a des questions? Non? Ok. Ça va, Valentine? Oui? C'est clair? Deux, trois cas particuliers. Un premier qui est relativement important. Si on a une structure qui est une structure isostatique. Anas vous a préparé un résumé avec tous les cas particuliers importants. Vous le rentrez tout à l'heure, mais ceci dit, écoutez, parce que c'est facile à retenir et ça vaut la peine de l'entendre deux fois. Si la structure S0 est isostatique, et qu'est-ce qui se passe une fois que je fais une coupure dans une structure isostatique? Ça devient un mécanisme. D'accord? H-1 est égal à -1, c'est au moins un mécanisme une fois. Donc si c'est un mécanisme à un degré de liberté, dès que je viens imposer un déplacement relatif dans un mécanisme, qu'est-ce qui se passe? Il se déforme sans déformation mécanique, d'accord? Donc tous les points de la structure qu'on étudie vont se déplacer, mais la structure va se déplacer en barre et en mouvement de corrigide entre les rotules et entre différents mouvements. Exemple, est-ce qu'on peut vérifier que cette structure est isostatique? Je le fais moi très rapidement, je me dis que là je vois trois réactions, j'en vois une est neutralisée par la rotule, donc c'est bon, 3. Ok, donc c'est bel et bien isostatique. Vous voulez voir autrement, méthode Franzen, une poutre encastrée libre, pour autant qu'elle soit libre ici, elle n'est pas vraiment le cas, on a une structure qui est isostatique. Mais elle est libre là-bas, pas de se déplacer verticalement, mais en tout cas en mouvement. Ok, donc on a bien une structure qui est isostatique. Alors si on s'intéresse par exemple au moment en A, qu'est-ce que le premier théorème de Lange nous dit? Il nous dit, mettez-y une rotule et imposez une rotation unitaire. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir. Donc je mets une rotule à cet endroit-là, la voilà ici, et puis j'impose une rotation unitaire. Donc je le fais tourner de manière à ce que la rotation ici soit égale à 1. Bien, à partir du moment où j'ai mis une rotule là-bas, vous voyez bien que c'est un mécanisme. Okay? Et donc si c'est un mécanisme, eh bien, entre les deux rotules, ça ne peut se déplacer et se prendre une configuration déformée qu'avec des morceaux de ligne droite. D'accord? On est très attentif là-dessus quand on corrige les interrogations et les examens. Si vous nous mettez des courbes là où c'est supposé être droit, ça ne va pas. Ça veut dire que vous n'avez pas identifié qu'il s'agissait au départ d'une structure isostatique et que vous l'avez coupée une fois et que du coup c'est devenu un mécanisme. Okay? Donc soyez bien attentifs à ça. C'est excessivement important. Donc la ligne d'influence du moment en A, eh bien voilà exactement la forme qui est prise par cette ligne d'influence. D'accord avec ça? C'est la configuration déformée qu'on obtient quand on impose une rotation unitaire là-bas, sachant que là on a une rotule, ici on a une rotule, et là c'est une extrémité libre, donc elle est libre de monter tranquillement. Ok? Si la structure est isostatique comme celle-là, et je vous demande maintenant de calculer la ligne d'influence d'un effet
géométrique. Par exemple, la flèche verticale, le déplacement vertical au point 2. Qu'est-ce que vous devez faire? Second théorème de Lanz, le premier qu'on a vu tout à l'heure, vous appliquez une force unitaire à cet endroit-là et vous regardez la configuration déformée. Ok? La force unitaire, on la met dans l'autre sens. Et donc, si je mets une force unitaire ici vers le haut, ben, voilà à quoi va ressembler la configuration déformée. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus des morceaux de ligne droite? Parce qu'on ne l'a pas coupée, celle-là. L'autre, on l'a coupée une fois. Pour avoir la ligne d'influence d'effet mécanique, on doit couper une fois. Ok, retenez-le. Ligne d'influence des réponses, des efforts intérieurs, des réactions, des effets mécaniques, on doit couper une fois. Là, on a introduit une rotule. On a introduit une rotule, donc on a transformé la structure ISO en un mécanisme. Ok, à gauche, c'est une ligne d'influence d'un déplacement d'une rotation. C'est autre chose, on ne doit pas la couper. D'accord? Donc elle reste isostatique. Quand on applique des forces sur une structure isostatique, bah, bien sûr qu'elle se déforme avec une courbure. Okay? Et c'est ce qu'on voit, là-bas. Ok, pas de questions là-dessus. Vous allez voir, vous aurez l'occasion de vous le pratiquer dans les exercices. Et donc, si j'ai un conseil à donner quand vous êtes à une interro en examen, regardez le degré d'hyperstaticité de la poutre qu'on va vous demander d'étudier. Anna, c'est gentil, quand c'est lui qui prépare les questions d'examen, il fait souvent deux colonnes. Il met les structures isostatiques à gauche et les hyperstatiques à droite. Ou parfois le contraire. Si vous voyez une structure isostatique, chaque fois que vous aurez à calculer la ligne d'influence d'un effort intérieur ou d'une réaction, elle sera composée de lignes droites, ok, exclusivement. Alors, il y a aussi d'autres cas particuliers, je pense que je ne les ai pas gardés dans les DIC, vous en verrez dans les exercices et vous en verrez dans, tout à la fin du chapitre sur les lignes d'influence dans votre syllabus. Regardez, lisez le chapitre, il est très court celui-là en plus, il suit vite. Regardez-le tout à l'heure. Vous verrez qu'il existe d'autres cas particuliers dans lesquels on pourrait partir au début d'une structure qui est hyperstatique et puis on la coupure une fois. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle devient iso, ou bien au pire, elle reste hyperstatique. Mais quand on impose un déplacement unitaire, il est possible que dans la configuration déformée, on ait des morceaux de droite. Ok, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle peut-être ce qu'on a expliqué ensemble au tout premier cours, où on récupère une structure qui, d'accord, elle est hyperstatique, mais en fait, elle est hyperstatique globalement. Et il est possible que localement, elle soit hypostatique, donc mécanisme, et hyperstatique sur le reste de la structure, de manière à ce que globalement, elle soit hyperstatique, mais localement, c'est un mécanisme. Ok, vous ferez des exemples aussi avec Anas tout à l'heure, où vous verrez que localement, la structure est un mécanisme, et donc il y a juste une partie qui part sans se déformer, ou qui reste en ligne droite, malgré le fait que la structure de départ soit hyperstatique. Okay? C'est un deuxième cas un peu particulier, mais vous rencontrerez ça dans le cadre d'exercice. Ok. Bon, allez, ça c'est plus pour le fun que pour autre chose. Je ne suis pas certain que ça vous servira à grand-chose, mais au minimum, c'est bon pour l'éveil, l'éveil mental et culturel. D'accord? Donc, je vous en parle. Vous pouvez peut-être être un petit peu moins attentif sur cette partie-là, parce qu'on vous ennuiera probablement jamais, mais c'est bon pour la culture générale. Si on a compris ce que c'était cette fonction f de alpha et s, c'est-à-dire une collection de diagrammes des moments dans un sens, une collection de lignes d'influence dans l'autre, on voudrait maintenant se demander à quoi pourrait correspondre la dérivée de la fonction f quand on la dérive soit par rapport à alpha, soit par rapport à s. Ok, c'est une fonction de deux paramètres, et on s'intéresse à ce que ça pourrait être. Ben, je pense que dans un sens, c'est déjà facile. Qui sait me dire ce que ça donne si je dérive f par rapport à alpha? Allez, je donne un point bonus à celui qui donne la bonne réponse. Je lui demande d'abord le... Ouais, trop facile. J'ai réducteur. Et effectivement, c'est l'effort tranchant. Si on dérive le moment, ben, on va avoir le diagramme. On va avoir le diagramme des moments. On va avoir plusieurs diagrammes des moments là-dedans. Plusieurs diagrammes d'effort tranchant là-dedans en fonction de S, la position où on a appliqué la charge appliquée. D'accord, donc la dérivée par rapport à alpha, elle n'est pas très compliquée. Si on a envie d'avoir la ligne d'influence de l'effort tranchant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va simplement prendre la ligne d'influence du moment, on la dérive par rapport à alpha, pour autant qu'on puisse l'exprimer comme une fonction du paramètre alpha. Attention qu'ici, j'écris la dérivée de L de M, mais ce n'est pas L de M pris comme une fonction de S,
c'est pris comme une, c'est une dérivée ronde, donc c'est pris comme une fonction à la fois de S et alpha. Okay, donc quand j'écris L indice M, c'est la fonction F hein, de S alpha, okay, qui représente le même être mathématique. Mais je le dérive ici par rapport à son paramètre. Ok. Pareil, si je voulais avoir la ligne d'influence de M, mais c'est EI fois la courbure, c'est EI fois la dérivée seconde par rapport à alpha. Bon, alors, question subsidiaire maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait bien obtenir si on dérive par rapport à S ? Non. Non, ça c'est ce qu'on vient d'utiliser ici. Donc on a EI fois la courbure. Donc ça c'est la ligne d'influence de la courbure. Oui, c'est ce que tu voulais dire en fait. Mais il faut qu'on dérive deux fois par rapport à alpha, pas par rapport à S. Donc maintenant ce que je voudrais faire c'est dire, ok, la charge elle est, au lieu d'être à l'abscisse, elle est à l'abscisse S. Et ce que je suis en train de faire c'est de calculer une dérivée par rapport à la position de cette charge. Ok, alors ça c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas vous demander d'essayer de deviner parce que je pense que vous allez vous torturer le cerveau. Et ce n'est pas une bonne idée. Si on veut dériver par rapport à S, qu'est-ce qu'on fait ? On va revenir à la définition initiale de la dérivée. Un peu comme ce que vous avez peut-être fait, mais vous êtes capable de le faire je dirais, naturellement et très rapidement. Vous savez qu'il faut trancher ces dérivées du moment. En fait, c'est ce que vous avez fait. Hein. C'est ce que vous avez fait pour obtenir ce résultat-là. Mais ici, c'est la même chose. Je vais revenir à la définition de la dérivée. Et la définition de la dérivée me dit quoi ? Que la dérivée de la ligne d'influence par rapport à S, c'est la valeur de la ligne d'influence quand la charge verticale est localisée en S plus delta S, moins la ligne d'influence quand la charge est localisée en S, divisée par ds. Et c'est la limite quand ds tend vers 0. Donc, si je m'intéresse à la ligne d'influence du moment ici, voilà la section alpha, voilà S. Alors, je vais écrire ici, donc on avait une charge unitaire qui se balade, ds. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que si je dérive la ligne d'influence par rapport à son argument à L, en réalité, parce que S c'est l'argument de la vraie ligne d'influence, bien ça revient à calculer le premier terme au numérateur là-bas, c'est quoi ? Ben, ça c'est la ligne d'influence qu'on obtiendrait du déplacement, par exemple, ou bien du moment dans la section alpha, quand la charge est à la section S plus ds. Donc je mets une charge unitaire ici en S plus ds, et je calcule l'effet qui est l'effet qui m'intéresse. Le deuxième terme au numérateur, c'est quoi ? Je mets une charge unitaire ici. Attention qu'elle est changée de signe, d'accord ? Donc je vais la changer de signe, elle est unitaire mais dans l'autre sens, et je vais regarder l'effet à la section alpha qui m'intéresse. Je vais ajouter ces deux résultats-là, ok ? Parce que j'ai déjà changé de signe. Je vais ajouter ces deux résultats-là, et puis je vais diviser par ds. Et donc en fait, ça viendrait à dire 1 sur ds et 1 sur ds. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un couple de forces d'intensité 1 sur ds quand ds tend vers 0 et ces deux forces sont à distance ds l'une de l'autre ? C'est un moment. Vous voyez, si je fais tendre ds vers 0, les deux forces qu'on a là-bas, dans l'autre sens, les deux forces qu'on a là-bas, elles tendent à devenir l'une sur l'autre et leur amplitude augmente de manière à ce que le couple soit constant. Et ceci, c'est exactement comme si sur la poutre, j'étais en train de faire passer un moment. Et donc je suis en train de regarder l'effet dans la section alpha, par exemple le déplacement ou le moment de flexion, peu importe, non plus sous l'effet d'une charge unitaire qui se balade, mais plutôt sous l'effet d'un moment unitaire qui se balade. Et donc je regarde la ligne d'influence, c'est-à-dire la réponse dans une section, non pas sous l'effet d'une charge qui se balade, mais plutôt d'un moment qui se balade. Ok, et alors donc on pourrait très bien faire la même chose, donc prendre une ligne d'influence qui nous intéresse, je ne sais pas, je vais en prendre une de toutes celles qu'on a là, voilà, je vais regarder la ligne d'influence du moment en A, et en fait la dérivée de, la fonction, de cette ligne d'influence, donc elle est la plus importante ici, bien c'est quand on applique un moment local en A, que le moment d'enregistrement en A est le plus important. Ok, quelle est l'utilité pratique de ceci ? Je ne sais pas, on n'aura pas des masses, hein, parce que des moments qui se baladent, on en voit rarement sur les structures. Il y a peut-être juste une utilité pratique, de nouveau, vous verrez peut-être ça dans votre cours, si vous prenez le cours de pont l'année prochaine, qui correspond aux efforts de freinage. Donc quand on a, compte tenu d'une épaisseur de revêtement, compte tenu d'une épaisseur de caisson, et d'une épaisseur structurelle, si
un véhicule devient pas freiné, donc ici je dessine un véhicule, je dessine très mal, mais voilà la, disons une section droite qui pourrait être un caisson de tablier, se trouve au-dessus du centre de gravité, et si le véhicule freine, donc ça crée un effort de freinage qui est perpendiculaire au plan du tableau, multiplié par un vrai levier, c'est comme si on avait localement, un moment local appliqué. Et quand on design un pont, on peut se questionner sur quel est l'endroit le plus défavorable où les camions pourraient éventuellement freiner de manière à maximiser des moments supplémentaires. Okay, quand on a des poutres en caisson comme ça, généralement l'inertie est suffisante pour que ça ne pose pas de problème, et donc ça devient relativement secondaire. Okay, donc quand on dérive, retenez simplement que quand on dérive une ligne d'influence, je vous explique ceci simplement pour ne pas que vous fassiez l'erreur de dériver la ligne d'influence du moment et puis me dire que c'est la ligne d'influence de l'être tranchant. Ça ne marche pas comme ça. Si vous dérivez la ligne d'influence du moment, ben vous avez la valeur du moment, mais non pas sous le passage d'une force, sous le passage d'un moment, tout simplement. D'accord ? Si vous voulez avoir la ligne d'influence de l'être tranchant, ben il n'y a pas photo. Il faut faire comme on vient de le faire ici. Ou bien, si vous l'aviez à disposition, ben je veux dire, c'est très rare pour vous, en tout cas, et dans le cadre des exercices qui vous intéressent, si vous aviez à disposition cette fonction-là complète, ben vous pourriez la dériver. Ok, mais en pratique, ce n'est pas comme ça qu'on fait, parce que c'est un peu plus compliqué. La mise en charge indirecte, on n'en parle plus.